BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, on est reparti pour la deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, Emmanuel Macron qui est en train d'achever là en ce moment sa visite d'État du côté de l'Allemagne avec une annonce commune avec Olaf Scholz, puisqu'on va lancer un produit d'épargne européen pour doper la croissance de l'Europe. Ça commence à ressembler à un semblant d'union des marchés de capitaux. On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant, puis on va en parler avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure.
Et oui, avec eux, on va continuer de dérouler tous les sujets d'actualité du jour, notamment la commission DLR sur la dette de la France qui a commencé à l'Assemblée avec l'audition de Thomas Cazenave qui clairement est passé sur le grill. Et puis Bruno Le Maire qui estime que la bataille contre l'inflation est gagnée. Alors est-il trop optimiste? C'est la question que l'on se pose ce soir. Et enfin cette étude qui nous montre que si la France ne se remet pas à faire beaucoup d'enfants, eh bien on va le sentir passer sur nos pensions de retraite d'ici une vingtaine d'années.
Les chiffres sont assez terribles, on verra ça un petit peu avant 20h. Alors avec qui on va parler de tout ça dans un quart d'heure? L'économiste Stéphanie Villers va revenir. L'économiste Henri Sterdignac sera là et Jean-Marc Silvestre pour Atlantico. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr.
A tout de suite.
Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise.
Good Evening Business, le journal.
Donc Emmanuel Macron qui est en train de tenir sa conférence de presse du côté de Berlin avec Olaf Scholz, fin de la visite d'État du chef de l'État français. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Avec cette annonce là qui est arrivée il y a quelques secondes, Macron et Scholz, messieurs Macron et Scholz, appellent à créer ce qu'on appelle un produit d'épargne européen pour doper la croissance. Est-ce que ça serait le début du commencement de ce dont on parle de plus en plus, l'union des marchés de capitaux, Thomas?
Ça y ressemble, et c'est très clairement la forme que la France voulait que cette union des marchés de capitaux prenne. Ça fait plusieurs mois, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron en tête, que la France pousse pour mettre en place un produit d'épargne pan-européen. On a aujourd'hui un accord entre la France et l'Allemagne là-dessus. Pour qu'on ait les chiffres en tête, on a une épargne aujourd'hui en Europe de 35 000 milliards. Sur ces 35 000 milliards, il y en a 300 qui partent tous les ans pour financer l'économie américaine. Et donc, bien évidemment, l'enjeu, c'est de garder une partie de cet argent pour financer l'investissement en Europe, l'investissement dans l'industrie verte, l'investissement dans le numérique et dans l'intelligence artificielle. Pour ce faire, l'Allemagne et la France ont donc topé, ça a été compliqué, l'Allemagne pendant longtemps n'en a pas voulu, son ministre des Finances en tête, Christian Lindner. Finalement, les chefs d'État se mettent d'accord aujourd'hui pour mettre en place un produit d'épargne pan-européen. On ne sait pas encore très concrètement quelle forme ça va prendre. Charge désormais au ministre des deux camps de trouver la réponse technique à cet accord politique. Ça va être l'objet du Conseil des ministres franco-allemands qui va se tenir ce soir à l'issue de cette conférence de presse. Mais on a donc cet accord. 4 ans après l'accord qui avait été trouvé, vous vous en souvenez, entre Emmanuel Macron et Angela Merkel sur une dette en commun européen, on a aujourd'hui un nouvel accord sur quelque chose qui n'existait pas à présent, l'union des marchés de capitaux et un produit d'épargne européen pour tenter, donc vous l'avez compris, l'enjeu, c'est de capter une partie de ces 300 milliards qui chaque année fuient l'Europe pour financer l'économie américaine.
Pour capter des capitaux privés, évidemment, c'est bien ça qu'il s'agit, à travers ce produit d'épargne pan-européen. Merci beaucoup Thomas Asportas, puis on parle de tout ça, bien sûr, dans moins de 10 minutes avec nos experts sur BFM Business. 19h04 dans l'actualité, Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics, est passé sur le grill de cette commission LR, vous savez, voulu par les LR, sur le creusement de la dette en France depuis 2017 et l'arrivée d'Emmanuel Macron. Les LR veulent notamment savoir ce qui a bugué depuis quelques mois pour que le gouvernement soit contraint au dernier moment de revoir à la hausse ses prévisions de dette et des déficits. Écoutez ce qu'a répondu Thomas Cazenave.
Qui, effectivement, aurait pu anticiper qu'en fin d'année, en toute fin d'année, notamment sur le rendement de l'IS, nous aurions un tel effet du ralentissement économique. On est les premiers également, comme vous, à regretter une vingtaine de milliards d'euros de recettes en moins. Donc, on a lancé un travail spécifique sur la manière dont on réalise et dont sont réalisées les estimations, dont les directions de travail s'alimentent les unes les autres pour pouvoir parfaire nos modèles, pour faire mieux.
Voilà, pour faire mieux. Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics, tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Dans l'actualité, par ailleurs, on voulait vous parler des têtes de liste aux élections européennes qui ne se quittent plus. Vous savez qu'hier soir, tout le monde était sur le plateau de BFM TV pour un grand débat à 15 jours des élections. Ben, figurez-vous que ce matin, tout ce petit monde s'est retrouvé pour passer un autre grand oral, cette fois devant les syndicats agricoles. Pauline Tadevin.
Les agriculteurs veulent plus de pragmatisme au niveau européen, plus de dialogue avec ceux qui prennent des décisions pour qu'elles soient davantage adaptées à ce qui se passe dans les corps de ferme. Ils veulent que la souveraineté agricole et alimentaire soit placée au cœur du mécanisme pour garantir la production sur le sol européen avec un état des lieux annuel. Ils prônent des règles plus simples, harmonisées entre les États membres, par exemple en matière de produits phytosanitaires. Ils veulent éviter la concurrence déloyale des pays hors Union en imposant des clauses miroirs ou des clauses de sauvegarde. Parmi leurs préoccupations, évidemment, le renouvellement des générations d'agriculteurs. Ils réclament une meilleure rémunération sur la base d'un EGalim européen. Ils plaident pour adapter les aides existantes aux nouveaux aléas climatiques et pour augmenter le budget de la PAC. Surtout, ils attendent des interlocuteurs bien au fait des sujets agricoles pour défendre leurs intérêts au Parlement européen.
Pauline Tadevin, en France, toujours, on a la confirmation que les cadres sont toujours très recherchés. 60% des entreprises, nous dit l'APEC, ont connu des difficultés de recrutement l'an dernier à cause de la pénurie de candidats. Mais l'autre problème, ajoute l'APEC, c'est que plus ça va, plus les processus de recrutement sont longs et complexes dans les entreprises. Et ça refroidit un peu les cadres apparemment. Léo Dumas.
Les cadres n'en peuvent plus de la multiplication des échanges. 90% de ceux déjà en poste s'accordent à dire qu'au maximum, 2 ou 3 entretiens sont idéaux quand aujourd'hui ils sont trop énergivores et mal ajustés selon eux. Mais ce n'est pas pour autant que les candidats ne veulent plus discuter. Au contraire, ils demandent plus de réciprocité dans les échanges, détaille Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC.
Il y a une envie qu'il y ait du temps, qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse poser des questions, que ce soit interactif, que ce soit humain, et pas que ce soit un processus trop fermé et trop stéréotypé et trop mécanisé. Ça, c'est ce qui exprime des candidats.
Et dans les discussions, il faut plus de clarté, demandent les cadres. Selon eux, le salaire est évoqué trop tardivement. 65% aimeraient le connaître avant tout entretien physique. Les descriptions de postes aussi sont souvent trop imprécises. Alors pour éviter les déconvenues, les entreprises doivent s'adapter, estime Gilles Gâteau.
Dans l'attractivité d'une entreprise, la façon dont elle considère ses candidats va être vue par les candidats en question comme une façon dont elle considère ses salariés.
Et dans une situation de quasi-plein emploi chez les cadres, il y aura pour l'APEC 2 clés du succès chez les recruteurs, la souplesse et la rapidité.
Voilà, les cadres qui s'agacent, les processus de recrutement sont de plus en plus longs et complexes dans les entreprises. Léo Dumas avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, le dossier Atos, Bruno Le Maire l'a promis ce matin, les activités de contrôle des centrales nucléaires détenues par le groupe français Atos resteront bien sous le contrôle de l'État. Elle pourrait être éventuellement reprise par EDF ou bien, je cite, une entreprise proche d'EDF, a dit Bruno Le Maire ce matin. Volkswagen annonce qu'il lancera en 2027 un véhicule électrique autour de 20 000 euros qui devrait être fabriqué en Europe. C'est ce qu'a annoncé son PDG Oliver Blum dans un communiqué aujourd'hui. Et puis en France, c'est tout un symbole Caddy. La célèbre marque de chariot Caddy, dont le nom est rentré dans le langage courant, Caddy, qui a été repris il y a 2 ans, vient de demander d'être placé en redressement judiciaire une nouvelle fois, parce que ça fait 4 fois en 12 ans. Le groupe, qui est basé en Alsace, emploie aujourd'hui près de 110 salariés. Et puis l'automobile, on y revient, parce que Porsche, à son tour, se met au vert, fallait bien. Le groupe a dévoilé aujourd'hui la première version hybride de sa fameuse 911. Justine Vassogne.
Il sera désormais possible de s'offrir une 911 hybride pour 175 000 euros. Porsche a longtemps hésité à sauter le pas. Hors de question de perdre l'ADN de son modèle phare basé sur la performance et la vitesse, des qualités difficilement compatibles avec une batterie électrique qui, par définition, alourdit le véhicule. La batterie de la 911 hybride est la plus petite possible avec une capacité de seulement 2 kWh. Elle ne sert en réalité qu'à démarrer la voiture. La 911 hybride ne met que 3 secondes pour aller de 0 à 100 km/h, c'est 3 dixièmes de seconde plus rapide que la 911 thermique, insiste Porsche, qui a fait s'affronter les deux modèles sur un circuit automobile pour le démontrer. La marque n'envisage pas pour le moment de décliner sa voiture iconique en version 100% électrique. Aujourd'hui, la technologie ne permet pas d'avoir une i911, explique un responsable de la marque. Si Porsche a déjà électrifié 2 de ses modèles, la Taycan et la Macan, elle n'a jamais caché ses réticences à un avenir tout électrique et milite contre l'interdiction du thermique en 2035 en Europe.
Voilà la première version hybride donc de la 911 de Porsche. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. 19h10, on retourne sur les marchés tout de suite. Retrouvez Aude Kersulec depuis Euronext à La Défense. Bonsoir Aude, comment ça s'est passé ce mardi à la Bourse de Paris?
On enregistre une baisse de quasiment 1%, donc pas très bien. On reste sur cette séquence d'ailleurs un petit peu molle sur les marchés européens. Alors hier on était monté dans un volume d'affaires d'ailleurs très très faible, on s'était cru au 15 août, moins de 2 milliards d'euros. Aujourd'hui c'est un petit peu plus, on est à 2 milliards et demi, mais on ne peut pas dire qu'il y ait de vraies initiatives sur les marchés. Donc du rouge aujourd'hui sur les marchés européens. On attend deux rendez-vous en fait cette semaine et qui vont arriver vendredi. Ce sera l'inflation européenne le matin et l'inflation américaine l'après-midi avec l'indicateur PCE. Sinon, quelques valeurs qui se sont démarquées aujourd'hui sur le marché parisien. Renault tient en tête de l'indice, plus 2,6%. La valeur est au plus haut depuis 2019 à 51,70 €. Michelin, qui a tenu une journée investisseur et qui a rassuré sur ses prévisions, qui prend 1,3%. Et Saint-Gobain qui a franchi un plus haut aujourd'hui, qui a franchi les 82 €, même si on finit en baisse pour Saint-Gobain. Et Aramis, on est très voiture aujourd'hui, plus 10% après un relèvement d'objectifs donc pour l'année 2024. Des indices rouges en Europe, c'est un petit peu mieux du côté des États-Unis. On sort de week-end pour Wall Street. Le Dow Jones en revanche est en baisse, mais le Nasdaq est lui en hausse, plus 0,5% au-dessus des 17 000 points. Et la valeur qui fait encore parler d'elle, c'est Nvidia. Nvidia qui prend quasiment 6% aujourd'hui, $1,129. La semaine dernière, on n'était même pas à $1,000.
Merci beaucoup, Aude Kersulec, donc à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe du côté de Wall Street. Justement, à la mi-séance, le Dow Jones qui perd 0,56%, 38 851 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui, dans le vert au contraire, plus 0,57%, 17 017 points. Tout ça à la mi-séance, bien évidemment. 19h12, on revient dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts. Beaucoup de choses encore ce soir. La fin de la visite d'Emmanuel Macron du côté de l'Allemagne. Thomas Cazenave sur le grill des députés LR cet après-midi sur le creusement de la dette. Et puis Bruno Le Maire qui nous prédit que le plus gros est passé sur l'inflation. Il y a déjà eu des promesses comme ça qui n'ont pas été vraiment suivies des faits. Alors on parle de tout ça plus bien d'autre chose jusqu'à 20h, évidemment. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, il est 19h17, on est de retour jusqu'à 20h sur BFM Business, dans Good Evening Business. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir à tous et à toutes.
Audrey Tcherkov avec nous jusqu'à 20h et puis nos experts. Stéphanie Villers qui est revenue, rebonsoir Stéphanie, économiste, conseillère économique de PwC France. Jean-Marc Sylvestre qui est avec nous, bonsoir Jean-Marc, éditorialiste à Atlantico. Puis Henri Stardignac, bonsoir Henri.
Bonsoir.
Économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés, merci d'être avec nous. Alors Emmanuel Macron, donc on en parlait tout à l'heure, qui est en train d'achever sa visite d'État, qui a eu une belle journée, il est allé à Münster ce matin en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Et là, il a organisé les alentours de Berlin. Il y aura un conseil des ministres franco-allemands tout à l'heure. Mais déjà, il y a eu une belle petite annonce tout à l'heure.
Oui, une annonce qui nous fait mentir. Parce qu'hier soir, sur ce plateau, on disait qu'il ne fallait pas en attendre grand-chose de cette visite. Et bien, finalement, le chancelier Olaf Scholz et Emmanuel Macron viennent d'annoncer le lancement d'un produit d'épargne européen. Est-ce que c'est enfin l'ébauche de l'union des marchés de capitaux dont on parle tant sur ce plateau depuis des mois?
Qu'on appelle de nos voeux. Ça peut être une des composantes, hein, c'est
Alors c'est un
de
début.
Cette union européenne, de cette union des marchés, puisque on est effectivement, c'est le dernier gros dossier qu'il faut traiter, quoi.
Et l'union le plus important, probablement.
Et sans doute le plus important. On a besoin d'un instrument d'investissement qui soit en gros garanti par l'ensemble de l'Union européenne, les membres, pour pouvoir protéger l'industrie française si on a envie de la protéger des assauts et de la concurrence à la fois chinoise et américaine sur le modèle de l'IRA américain. Mais on ne sait rien de ce produit. Est-ce que c'est un produit à long terme? Comment il sera financé? Comment les pays vont se le répartir? C'est intéressant parce que la France a quand même une capacité d'épargne qui est considérable.
Historique.
Qui est inutilisable.
Historique. Au niveau européen, on rappelle, on est à 35 000 milliards. Ouais. D'euros d'épargne privée.
Globalement.
Oui, au niveau
et
de
l'Europe. Et on en
Mais nous avons quand même une masse française de 6 000 milliards d'épargne liquide. Ça, c'est enrageant, ça. De trucs d'épargne qui sont dans les comptes courants, qui dort, qui ne sert à rien.
Les gens épargnent, les Français épargnent,
qui ne sert à rien, peut-être.
Alors, attendez, parce que quand on dit qu'on n'en fait rien, je sens que Stéphanie Villers trépigne sur sa chaise. On n'en fait pas grand-chose, Stéphanie.
Ça finance essentiellement la dette publique. Hein,
voilà. Donc, on n'en fait rien. Concernant les dépenses d'avenir,
heureusement, qu'il y a cette épargne pour venir abonder et financer les dépenses de l'État, surtout de la France, puisque l'Allemagne, à la rigueur, ils sont capables d'être en excédent budgétaire, ils n'ont pas besoin de s'endetter, mais nous, on a besoin de s'endetter, donc on est bien obligé de lever cette épargne, et puis cette épargne, elle est importante, puisque là, il vaut mieux dépendre de sa population plutôt que dépendre de l'extérieur. Ensuite,
je ne suis pas d'accord avec vous, parce que quand vous regardez qui participe aux levées de fonds du Trésor aujourd'hui, principalement des étrangers.
50%.
Mais c'est déjà pas mal, hein.
Le reste, c'est les Français, donc c'est quand même la moitié. C'est pas l'épaisseur du trait, on peut pas l'utiliser. Donc, ça finance ça. Par contre, c'est très peu rémunéré ça fait quand même une plus d'une décennie qu'on dit en fait que cette épargne devrait être fléchée dans la dynamique des entreprises. Aujourd'hui, en fait, au-delà de financer l'industrie, c'est l'industrie verte qu'on doit financer. Alors, on a les moyens. En fait, c'est ça. Le constat, c'est qu'en Europe, on a les moyens de concurrencer les deux mastodontes qui sont la Chine et les États-Unis, mais on ne sait pas mettre en place
le problème, c'est qu'il y a eu tellement de tentatives au niveau français de mettre en place des produits d'épargne justement destinés à flécher l'épargne vers le financement de l'économie réelle. Est-ce qu'on va pouvoir faire au niveau européen ce qu'on n'a pas su faire au niveau français?
Je ne comprends absolument pas ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capitaux, il n'y a pas d'argent qui dort. Tout l'argent qui est dans les banques, il a une contrepartie en termes de crédit ou de dépenses publiques. Donc l'idée qu'il y a de l'argent qui dort, c'est complètement saugrenu. Et d'autre part, pour les économistes, ce qui est important, c'est l'investissement. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'effectivement, on va développer des sources nouvelles d'investissement? L'épargne. Si l'épargne, ça consiste simplement à dire, on va faire un livret supplémentaire européen dont on ne sait pas combien il sera rémunéré, parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'il mange notre livret A ou notre livret de développement durable.
Oui.
C'est pas ça qui va impulser l'industrie. L'industrie n'a pas de problème parce qu'elle ne trouve pas d'épargne. Le problème, c'est qu'il faut investir. Il faut des entrepreneurs et des banquiers. Et là, on ne voit pas où on a les entrepreneurs et les banquiers. On a une banque européenne d'investissement. C'est à elle, telle qu'elle est, de se lancer.
Qui n'a pas les poches aussi larges, la banque européenne.
Les poches, on les crée. C'est-à-dire, si effectivement, on finance des investissements, et en particulier des investissements verts, ça impulsera la croissance et ça créera l'épargne nécessaire pour les financer. Donc là, je pense que le bon axe, c'est pas un nouvel instrument d'épargne. Le bon axe, c'est développer l'investissement et développer des banques d'investissement.
Vous avez forcément besoin d'un nouvel instrument, puisque l'épargne dont vous dites qu'elle ne dort pas, en réalité, c'est de l'épargne réalisable et disponible à court terme. Vous n'avez pas le droit, de par la réglementation bancaire et financière, de l'utiliser à des investissements plus long terme. Aujourd'hui, donc, elle est figée, cette épargne.
Elle n'est pas du tout. Elle est figée où? Vous pensez que si vous allez dans votre banque, il y a un énorme coffre dans lequel il y a vos billets?
Non, mais elle est utilisée.
Elle n'est pas investie dans l'industrie, sinon ça serait.
Bien sûr qu'elle est industrie. Elle est investie soit dans la dette publique, soit au niveau de l'industrie. Le problème de l'industrie, c'est pas qu'elle manque d'épargne. Le problème de l'industrie, c'est qu'on manque de projets et on manque de banquiers qui acceptent de prendre le risque de l'industrie. On a une entreprise, on a une banque qui s'appelle BP France. C'est à elle, effectivement,
BPI.
C'est à elle, effectivement, de financer. Elle n'a pas besoin d'épargne.
Elle finance déjà beaucoup de choses, la BPI.
Écoutez quelques secondes. Emmanuel Macron, donc, qui a fait cette annonce aux côtés du chancelier Scholz il y a quelques instants. Le président de la République, allez.
Aller vers cette union de l'épargne et de l'investissement. Depuis plusieurs années, nous en parlions. Et je veux vraiment dire qu'il y a, et c'est pour moi l'un des acquis Et l'un des résultats très importants de ce Conseil des ministres, que nous avons traduit dans un texte commun, la convergence entre nous deux est inédite à cet égard. Et je ne doute pas qu'elle entraînera maintenant un mouvement fort accéléré au sein de toute l'Europe. Elle était nécessaire et nous y sommes arrivés. C'est en effet grâce à cela que nous pourrons bâtir, au fond, une véritable Europe des marchés de capitaux, c'est-à-dire une Europe de l'épargne et du financement commun. Nous avons donc décidé ensemble d'appeler à la création d'un produit d'épargne européen, épargne financière, je le disais, massive, 35 000 milliards d'euros, et ce tel produit d'épargne qui va être fléché sur nos priorités de long terme, transition verte, intelligence artificielle, innovation, défense, c'est pour nous un élément de cohérence, d'efficacité d'utilisation de cette épargne.
Alors, on le disait tout à l'heure, Paris et Berlin sont évidemment les moteurs de l'Europe sur bien des sujets. Vous êtes d'accord avec
oui.
ça, Henri?
Oui, sur tous les sujets.
Quand il y a une annonce commune entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, comme il vient d'avoir à l'instant, on peut quand même se féliciter qu'il y ait enfin un cap commun, une vision commune qui se fasse sur ces sujets-là d'investissement, de compétitivité, in fine de productivité.
Parce que d'investissement, oui, effectivement. Le problème, c'est que il va falloir se poser la question comment on investit,
oui,
où
oui,
on investit.
Les modalités.
La question n'est pas de recueillir
les
parts.
Les projets existent. Bah, l'argent
justement,
pour les...
en fait,
mais
déjà,
raison, c'est aussi. Le premier dossier important que l'Allemagne et la France.
Stéphanie, attendez.
Non, en fait, on sait. En fait, il y a déjà eu des plans de financement de EU Next Generation. Et en fait, on a déjà un peu le recul depuis 2020, ça a été lancé. On voit qu'en fait, cet argent n'arrive pas là où il faut. Pourquoi ? Parce qu'on veut financer l'industrie verte, et là, je pense qu'on va être d'accord, mais en Europe, et particulièrement en France, les entreprises de ce secteur-là, ce sont des start-up, des PME, qui n'arrivent pas à récupérer les subsides de l'Europe. Donc, en fait, cet argent existe, et il n'y a pas de mastodonte européen. Hein. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Chine.
Mais parce qu'il y a aussi un déficit, Stéphanie, de commandes publiques. Le mastodonte américain, il existe aussi.
Sans doute,
SpaceX se crée. Il est lancé, notamment grâce à la commande publique.
Non, mais pour passer à une taille qui a du sens, hein, pour faire concurrence aux entreprises chinoises, il faut arriver à une taille qui impose. Or, on voit en fait que tous les leaders la voiture électrique, la batterie et l'hydrogène, elles sont asiatiques. Ce sont des entreprises asiatiques. Donc, en fait, si on voulait réellement avoir une réponse, il faut financer, il faut arriver à flécher ces subsides de l'État, des États européens, pardon, vers les start-up. Et les start-up et les PME, elles n'y arrivent pas. C'est trop compliqué, c'est trop nébuleux. Oui. Or, créer une épargne au niveau européen, un fonds d'épargne, un produit d'épargne, c'est super bien. Pour autant, est-ce que ça va résoudre le problème du fléchage?
Je vous pose aussi, est-ce qu'on va arriver au niveau européen à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire au niveau français, c'est-à-dire vraiment flécher l'épargne vers le financement de l'économie? Pourquoi ça marcherait au niveau européen si ça ne marche pas au niveau français?
À partir du moment, si véritablement c'est un produit européen avec les garanties européennes, on va avoir des critères d'éligibilité, et ce produit-là, eh bien les entreprises iront à accès puisqu'il sera distribué par l'ensemble des systèmes bancaires en France comme en Allemagne.
Mais comment vous allez marketer ça pour que ça marche? C'est ça que je voudrais comprendre.
On a fait des produits d'épargne pour financer les ETI, les PME françaises,
ça jamais
fonctionne.
Le problème, c'est pas l'épargne. Le problème, c'est les projets industriels.
Comment vous vendez
c'est
ça?
C'est pas l'épargne qui empêche actuellement l'industrie française de se développer.
Avec l'image cataclysmique.
Ce qu'il faut, c'est avoir des projets financés en grande partie, je suis d'accord, par la commande publique ou par des dons publics, des subventions publiques.
Mais
et à ce moment-là, effectivement,
des projets, il y en a, et quand il y en a et qui sont prêts à être lancés, soit on n'a pas de foncier, soit on a un problème de main-d'œuvre. Donc c'est pas une question de nombre de projets. Des projets, il y en a, mais tous les freins.
C'est pas une question d'épargne dans ce que vous dites non plus.
Non, bah alors c'est une question de financement aussi, bien sûr, mais c'est pas que ça.
Comment est-ce qu'Airbus a pu se développer? Il n'a pas besoin d'une épargne Le problème,
on parlait des ETI et des PME.
Le monde n'était pas endetté comme il l'est aujourd'hui. L'Europe, les États n'étaient pas endettés.
Vous n'êtes pas en panne de projet aujourd'hui en France. Regardez ce qui s'est passé à Vivatech. Regardez, il y a tous les jours...
Atchouz France aussi.
Oui, vous avez tous les jours des appels de fonds. Vous avez des augmentations de capital. Vous avez sur ce plateau, c'est un défilé permanent de gens qui ont des idées, un peu, beaucoup d'ambition et qui viennent tout joyeux vous annoncer qu'ils ont réussi à lever 3 millions de francs.
Oui, mais pas
déjà ça. C'est l'appétence au risque qui manque en Europe. En fait, on ne sait pas.
Ils n'ont pas levé en France bien souvent ces millions, ces milliards.
Ils ont trouvé l'argent plus facilement à l'étranger.
J'espère qu'avec un produit pareil,
ils trouveront plus facilement.
D'où ma question, comment est-ce que vous allez marketer ça? Comment vous allez vendre ça auprès de l'opinion
européenne? Il faudrait garantir en fait un minimum. Moi, je suis pas contre faire un deuxième produit type livret A parce que pour le coup, ça marche très bien. Ça aide à financer les logements sociaux. Donc, pourquoi pas récupérer le même système?
On peut faire un livret européen qui sera l'équivalent du livret A, en espérant que le problème de la coexistence entre les deux, il va falloir le résoudre. Et ensuite, la question qui va se poser, c'est effectivement comment on trouve les projets pour financer.
Vous êtes
pour
d'un pessimisme et d'un...
Non, il y a un rôle. Il est dans ce rôle. Je rappelle que c'est un économiste atterré. Non, mais les entreprises nous le disent, en fait. Elles ont vraiment du mal à récupérer les subventions qui sont annoncées. Et il n'y a que les grands groupes qui ont des équipes qui savent, en fait, les procédures y arrivent, alors que les plus petites entreprises, celles qui pourraient, en fait, être.
Mais on a vu la crise du secteur agricole qui s'est illustrée notamment par ce même problème.
Voilà pour cette conférence de presse entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz qui est en train de se terminer 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, les experts du soir continuent. Stéphanie Villers, Jean-Marc Sylvestre et Henri Sterdignac et puis bien sûr Guillaume Paul, évidemment. On voulait parler donc, Guillaume, de cette fameuse commission d'enquête mise en place par les Républicains au Parlement sur le sujet de la dette, cette augmentation historique de la dette depuis 2017. Et c'est Thomas Cazeneuve qui a été auditionné tout à l'heure, le ministre des Comptes Publics, qui est passé sur le grill.
On va dire ça comme ça. Alors, ils l'ont auditionné sur le creusement de la dette depuis 2017. Et aussi, il y avait quand même une question sur la façon dont les comptes ont dérapé à la fin 2023-2024 avec le résultat que l'on connaît. Que s'est-il passé? Écoutez ce qu'a dit Thomas Cazeneuve aux députés républicains notamment.
Qui effectivement aurait pu anticiper qu'en fin d'année, en toute fin d'année, notamment sur le rendement de l'IS, nous aurions un tel effet du ralentissement économique. On est les premiers également, comme vous, à regretter une vingtaine de milliards d'euros de recettes en moins. Donc, on a lancé un travail spécifique sur la manière dont on réalise et dont sont réalisées les estimations, dont les directions travaillent, s'alimentent les unes les autres pour pouvoir parfaire nos modèles, pour faire mieux.
Oui, alors attendez, non mais parce que si on se rappelle, souvenez-vous, septembre-octobre dernier, tous les rapports se succèdent et s'enchaînent. L'OFCE, la Cour des comptes, tout le monde annonce que ça va être, une catastrophe, qu'il faut revoir la trajectoire budgétaire, et le gouvernement n'en fait rien et propose un budget 2024 qui s'est avéré complètement insincère. Est-ce qu'on peut parler d'insincérité?
Oui, à ce niveau-là, Stéphanie Villers. Je pense que oui. Oui, on peut pas. Oui, bien sûr. Alors pour quelles raisons, je sais pas, mais on peut pas se tromper à ce point. C'était 18 milliards qui manquaient dans les caisses de l'État.
C'est beaucoup.
Donc, à partir du moment où tout le monde avait prévu, les autres organismes avaient prévu qu'il y aurait des dérives et que l'atteinte du déficit budgétaire ne serait pas réalisée. Voilà, c'est. Pourquoi ils ont maintenu leur position jusqu'à
Non, mais la question est là. Est-ce que c'était pour les agences de notation, Henri? Est-ce que c'était pour afficher des chiffres un peu plus enthousiasmants que la réalité?
Non.
Pour les convaincre?
Il y a deux problèmes différents. Il y a un premier problème. Au quatrième trimestre, personne n'a vu que les rentrées de l'IS, aussi bien les entreprises que les banques, allaient être très, très mauvaises. Et ça, c'est une erreur... disons habituel, c'est-à-dire que l'IS est un impôt compliqué. Il y a eu beaucoup de rentrées en 2022, il y a eu très peu de rentrées en 2023, et ça a mal été vu par les experts, mais c'est depuis que je travaille, je peux dire que chaque année on a ce problème qu'on a du mal à évaluer les rentrées de l'IS. Donc ça, c'est une chose. C'est limité à la fin 2023. Et ensuite, il y a un problème pour l'année 2024, mais qui est récurrent, qui est que naturellement, le gouvernement annonce une croissance un peu plus forte que ce que les experts annoncent.
Largement, et que ça vu du consensus des économistes.
Je pensais que dans ce genre de situation, on avait tendance à noircir un petit peu le tableau pour dire à l'arrivée, voyez, on a fait mieux que prévu, finalement. Non,
toi, c'est, il y a peut-être un peu de ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de com' là-dedans. Oui. Moi, ce que je trouve, c'est que pendant qu'on parle de bugs sur les rentrées d'impôts, on ne parle pas de l'essentiel dans l'équilibre budgétaire. C'est-à-dire notre obsession de sacraliser le poste dépenses sociales et publiques. On n'y touche pas, on n'en discute pas. Ce truc est intouchable. En revanche, on peut toucher éventuellement aux impôts à la hausse comme à la baisse. Il va bien falloir un jour qu'on considère que le problème français, c'est l'excès de dépenses publiques. Oui, vous riez, mais c'est vrai. C'est l'excès de dépenses publiques et sociales de ce pays.
Nous avons un gouvernement, qu'on le veuille ou non, nous avons un gouvernement qui s'est engagé à ne pas augmenter les impôts et les cotisations sociales. Nous avons un gouvernement, nous avons un président de la République qui, depuis qu'il est président de la République, a baissé le total, les impôts entreprises plus ménages de 72 milliards.
Et ça s'est vu sur le nombre de créations d'entreprises, Henri, et de créations d'emplois.
Donc on ne peut pas dire qu'il y a un tabou là-dessus. Voilà.
Je ne dis pas qu'il y a un tabou là-dessus, je dis qu'il y a un tabou sur l'idée de toucher aux dépenses publiques.
Et par ailleurs, les dépenses n'ont pas augmenté.
On va faire 20 milliards d'euros d'économie.
Oui, mais c'est les dépenses n'ont pas augmenté de façon fabuleuse. Et c'est pour ça, que cette commission d'enquête est un peu bizarre, parce qu'il n'y a aucun mystère là-dessus. Depuis que Macron est président de la République, il a baissé les impôts. Les dépenses courantes n'ont pas augmenté de façon importante, mais il a fallu dépenser.
Non, mais c'est pas vrai. Les frais de fonctionnement du gouvernement sont exponentiels. On a le gouvernement le plus cher de la Ve République.
Et on a vu à la hausse
On a dépensé 7 points de PIB parce qu'il y a eu la crise Covid et l'inflation.
Non, mais
7 points de PIB. Et il n'y a pas de mystère là-dessus.
Il faut bien se rendre compte qu'il y a un tabou total de la droite comme de la gauche pour parler de la sphère publique et sociale qui est exubérante et trop importante. On n'en parle pas. Et je crois que
vous passez votre temps à parler.
Mais non, 20 milliards d'euros d'économie cette année, 20 milliards l'an prochain.
Il y a un truc qui m'étonne quand même. On est une société qui est traversée par des courants souverainistes. Hein, ces courants souverainistes ne sont pas capables de s'apercevoir que la soumission à la dette est la première des soumissions et que la nécessité c'est de s'affranchir de ça. Et la question de s'affranchir de ça passe par le changement de modèle économique sur les dépenses sociales et publiques. Tant qu'on s'en sortira pas, il faudra évidemment un jour renverser la table.
Bon. Et taux d'épargne en France extrêmement important. Il est pas choquant que naturellement, on a besoin d'un déficit public en face.
Stéphanie, non, mais en fait, ce qu'on s'attendait à l'année dernière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu réellement de choc supplémentaire. Et les années précédentes, il fallait effectivement financer la crise sanitaire et ensuite la crise énergétique. Il aurait fallu, à partir de 2023, comme l'ensemble des autres pays européens, commencer en fait à diminuer les aides pour pouvoir une situation budgétaire plus soutenable. Parce que, comme on fait partie en fait d'une zone, hein, on doit se comparer par rapport aux autres pays. Et surtout, on doit rendre des comptes. Et là, en fait, c'est ça qui est inexplicable, c'est que la stabilité de la dépense publique dans une situation où il n'y a pas eu de choc et qui fait suite à des années de choc, là, ce n'est pas acceptable.
Alors surtout qu'avec l'inflation, Stéphanie, en réalité, l'endettement aurait dû mécaniquement baisser.
Oui, alors il y a l'endettement puis il y a le déficit, mais on aurait dû effectivement par rapport à d'autres pays rentrer plus dans les clous. On a fait des choix, notamment l'indexation des retraites et qui a coûté extrêmement cher, c'est 18 milliards. On a indexé sur l'inflation alors que les salaires, à part le SMIC, ne l'étaient pas. Donc il y a en fait une injustice en fait sociale qui s'explique pour des raisons politiques, mais pas pour des raisons économiques.
Non, mais quand on fera le bilan fin 2024, on s'apercevra que le pouvoir d'achat des retraités a plus baissé que celui des salariés. Je veux dire, les retraités, on a un contrat social avec eux, les retraités ne bénéficient jamais de hausse de pouvoir d'achat. Je veux dire, il aurait été un peu choquant, après le débat sur les retraites que on mette en cause le fait que les retraites soient indexées sur
les... Et tout aussi choquant que les autres salaires n'augmentent pas comme avec l'inflation. Enfin, pourquoi
les salariés ont perdu à peu près 2,5% de pouvoir d'achat qu'ils vont récupérer dans les années à venir. Les retraités ont perdu à peu près 2% de pouvoir d'achat qu'ils vont jamais récupérer.
Allez, puisqu'on parle de pouvoir d'achat.
Oui, alors on va surtout parler de cette petite phrase de Bruno Le Maire ce matin qui considère que la bataille contre l'inflation, eh bien ça y est, c'est gagné, c'est derrière nous.
L'inflation est derrière nous, dit Bruno Le Maire. Vous nous direz si vous êtes d'accord. On va écouter le ministre qui nous a déjà fait ce genre de promesse. Attention quand même. Hein.
L'inflation, elle est derrière nous. L'inflation élevée est derrière nous. J'avais aussi annoncé que nous serions autour de 2% d'inflation au début 2024. Nous sommes fin mai 2024 et nous sommes autour de 2% d'inflation. Donc le pari a été gagné, la bataille a été gagnée. Et surtout, le plus important, c'est que les salaires commencent à augmenter plus vite que l'inflation. Donc ça améliore le pouvoir d'achat des Français. Alors, il n'empêche que ça reste très difficile.
Ça se voit pas encore sur les prix, hein.
Non, ça se voit sur certains prix, pas tous. On a en plus des prix à la pompe qui aujourd'hui sont stables ou en légère diminution. On a quelques produits alimentaires qui diminuent, mais il n'empêche que vous avez le coût du logement qui reste très élevé dans beaucoup de zones où c'est tendu. On a encore des difficultés structurelles à résoudre, mais sur le chiffre même d'inflation, il était 5 points au-dessus il y a encore quelques mois. C'est beaucoup battu pour le ramener à 2. J'avais pris un engagement, 2% d'inflation mi-2024, nous y sommes, l'engagement est tenu.
Alors c'est vrai qu'on était à 5, on arrive à 2, pari tenu, mais juste quand même, le fait que les salaires commencent à augmenter plus vite que l'inflation, c'est l'inverse de ce que vous venez de dire, Henri.
Non, c'est exactement ce que je viens de dire. Non.
Si. Mais ah bah non.
Quoi?
Si.
Les salaires qui ont perdu de pouvoir d'achat en 2022 et 2023, à partir de 2024, ils commencent à récupérer du pouvoir d'achat, ce qui n'est pas le cas des retraités.
Les retraites sont toujours indexées sur l'inflation, donc je ne vois pas en quoi le pouvoir d'achat baisserait. Donc de toute manière, la mécanique
Les retraités ont eu une hausse de pouvoir d'achat le 1er janvier 2024, ils n'en auront pas tout au long de l'année. Donc tout au long de l'année, ils vont perdre 2,4% de pouvoir d'achat.
Le premier effet positif de cette stabilité de l'inflation, c'est la reprise de la consommation. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est bel et bien. Les ménages se rendent compte que les prix sont en train de se stabiliser. Ils avaient un peu perdu leur repère avec la flambée des prix. Aujourd'hui, on voit qu'ils retournent peu à peu vers la consommation.
Pardon, deux choses par rapport à ça. Un, ce genre de promesse, Bruno Le Maire nous l'a déjà fait. Ça n'a pas toujours été suivi des faits. Et deux, le chiffre global, oui, il est en baisse. Mais vous regardez sur l'alimentation, ça commence tout juste à se stabiliser. On est sur un plateau haut.
1,2.
Oui.
On
n'est pas encore sur la décrue des prix dans l'alimentation. Donc moi, je trouve ça un petit peu
Affreux. Bah si, 1,2, si. En fait, là où on voit... l'énergie, c'est 3,8%.
Il dit quelques denrées alimentaires.
Les services, c'est 3%. Donc, c'est là où on peut dire que 3%, donc plus élevé que l'inflation globale qui est à 2. Donc, ce qui montre bien, les services, c'est surtout des coûts salariaux, qui montrent bien qu'il y a un rattrapage des salaires par rapport à l'inflation.
Oui, c'est vrai. Alors, juste quand même, on peut parler d'une ère du renoncement. Parce que dans les comportements de consommation, il y a des vraies tendances de fond qui arrivent et qui sont complètement nouvelles. Ça se voit sur les produits qui sont jugés non indispensables. L'alcool, les produits de beauté, ça baisse quand même largement. Et les ménages, globalement, en achètent moins. Et donc, il y a un repli.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Jean-Marc. Je ne suis pas sûr que la légère amélioration de pouvoir d'achat et surtout la stabilité des prix, et le maire a raison, ce n'est pas une bêtise, il ne raconte pas d'histoire là-dessus, il a les chiffres. Ouais. Mais je suis pas sûr que ça se traduise par un redressement du niveau général de consommation. Ça peut se traduire, en revanche, par une augmentation de l'épargne. Et on a aujourd'hui une augmentation de l'épargne.
Alors on a aussi une reprise 0,5% en T1. Moi, je donne juste les chiffres. Donc, c'est quand même une... Alors, c'est pas l'euphorie, hein, mais par rapport au T4, où il y avait pratiquement zéro, on peut dire que ça s'est amélioré.
Mais avec des prix qui ne retrouveront jamais leur niveau d'avant-crise, effectivement.
Les salaires non plus. Les salaires aussi. On arrive à un niveau... En fait, l'eau a augmenté et va par descendre. Mais bon, tout est...
On arrive à un nouveau plateau. Voilà, c'est bien. Et puis là, normalement, on va avoir une petite hausse de l'inflation pour des effets de base. Là, on est actuellement à 2,2. On va passer à 2,6. Et à la fin de l'année, normalement, on est à 2. Et à ce moment-là, on pourra dire, effectivement, il n'y a plus d'inflation.
Je veux dire, là où vous avez raison, il y a un problème politique. C'est qu'il y a un ressenti de la part de l'opinion publique qui est d'avoir une inflation très, très forte.
Et là, c'est pas quand même un drame d'aller faire ses courses.
C'est l'énergie avec laquelle les gens défendent ce corps de dépenses publiques et sociales dont je parlais. Regardez ce qui se passe dans cette veille des Jeux Olympiques. Enfin, c'est un des filets permanents de toutes les corporations, de tous les syndicats pour obtenir une augmentation.
Ah oui, mais
ils obtiennent l'augmentation très facilement. Hein.
Mais ça, c'est de bonne guerre, ça.
Oui, absolument.
Comment c'est de bonne guerre? Mais non, c'est pas de bonne guerre.
C'est ce que je vous dis.
Il y aurait un dialogue social cohérent, on aurait prévu ça avant. Enfin, non, je crois pas.
Ça, c'est sûr que sur le calendrier, on a si mal pris.
Ça a existé dans tous les pays qui ont organisé les Jeux Olympiques, mais pas dans ces proportions-là. Enfin, là, c'est le quoi qu'il en coûte olympique.
Mais enfin, ce qui est aussi intéressant, c'est que tout ce qu'on est en train de se dire, cette baisse du pouvoir d'achat qui est quand même encore un peu là, elle a des effets industriels, avec notamment les grandes marques qui coûtent évidemment plus cher, qui sont délaissées de plus en plus par les consommateurs, et les distributeurs qui sont de plus en plus nombreux à lancer leurs propres produits. Est-ce que c'est la fin du règne pour les grands noms de l'agroalimentaire ?
Jamais. Ou les grandes marques de consommation.
Non, en fait, ils seront s'adapter aux besoins du consommateur.
Elles vont s'adapter.
Alors, avec des prix moins élevés.
J'ajoute en plus que c'est elles qui fournissent les produits génériques, donc, ou les produits sans marque.
Non, mais c'est un
montant puissance des marques de distributeurs.
C'est un problème, effectivement. Normalement, il faut accepter une certaine hausse des prix pour avoir effectivement des producteurs dans l'agriculture, dans l'industrie.
Le bio, ça coûte
cher. Qui ont des marges satisfaisantes et qui peuvent fournir des produits de qualité.
Oui, bien sûr.
Oui, mais payer plus cher, on ne le peut pas faire.
Plus cher, mais de qualité.
4 minutes pour vous demander un mot sur cette étude qui est sortie ce matin, qui nous dit entre les lignes, faites des enfants, parce que sinon ça va se sentir sur nos pensions de retraite dans 20, 30 ans. Vous savez que l'an dernier, le taux de fécondité en France est tombé à son niveau le plus faible depuis 30 ans, 1,68 enfants par femme. Et ce think tank nous dit qu'il s'est penché sur les conséquences d'une baisse de la natalité en France. Il dit en gros, même si on restait sur un rythme de 1,8 enfants par femme, donc supérieur à ce qu'on a vécu l'an dernier, alors, un, la population française commencerait à diminuer dès 2044, donc dans 20 ans. Deux, le niveau des pensions, du coup, ne pourrait que baisser petit à petit. D'ici 2055, le niveau des pensions serait ainsi inférieur de 40% par rapport à aujourd'hui. Conclusion, faites des enfants. Tout de suite.
Vous faites des enfants, à moins que vous choisissiez un autre modèle de vie, un autre modèle économique à la japonaise, par exemple. Oui. Ou alors que vous alliez chercher dans l'immigration la main-d'œuvre qui...
s'est passé en Allemagne.
Ce qui est déjà fait, puisque les Allemands. Mais un modèle à la japonaise, c'est pas exclu pour l'Europe aujourd'hui. Les Japonais, ça va faire 30 ans qu'ils gèrent leur croissance, leur décroissance démographique. Ils vivent de rentes que leur épargne a
dégagé. Oui, alors
c'est non, c'est pas un modèle acceptable pour l'Europe.
Mais je sais
tout
pas.
Tout le problème. Ben non, mais vous, ben on oui, sait. Mais on est là pour le dire. Ah bon, on est là pour dire, effectivement, ce n'est pas un modèle acceptable pour l'Europe. Je veux dire, l'Europe.
On est en danger de ce modèle-là.
L'Europe.
Oui, oui.
C'est toujours refusé à impulser des politiques familiales dans les États membres. Résultat, on a une grande partie, toute l'Europe de l'Est et les pays méditerranéens où il y a 1,3 enfant par femme, c'est la catastrophe, en particulier en Italie, avec le problème que des retraites, mais il n'y a pas que le problème des retraites, il y a un problème
toute l'économie derrière,
il y a un problème des valeurs que l'Europe porte, et les valeurs que l'Europe porte, on a absolument besoin d'avoir un dynamisme
démographique.
Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de restaurer cette dynamique, non pas tellement pour des questions de retraite,
mais c'est toute l'économie derrière.
Pour
l'économie qui chavire derrière.
Il n'y a pas de mystère. Normalement, on avait à peu près 800 000 enfants par an. Là, on est passé à 650 000. Ça veut dire 150 000 personnes de moins sur le marché du travail dans 20 ans.
Non, mais voilà.
150 000 personnes de moins sur le marché du travail dans 20 ans, c'est 0,5% de croissance du PIB en moins.
Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se leurrer sur l'ampleur du choc économique qui nous attend. Mais ce qui est intéressant aussi, et je tiens à citer ce chiffre, c'est que les enquêtes montrent que le nombre d'enfants désirés par les femmes est bien supérieur et en moyenne de l'ordre de 2,5%. 2,4 enfants. Donc on a une explication, enfin des explications à trouver ailleurs.
Il y a quand même un frein dans les nouvelles générations pour avoir des enfants.
Non, puisque je te donne le chiffre. Enfin, en moyenne, 2,4 enfants.
Les enfants se gagnent
plutôt que de voir les conséquences en fait de la baisse du taux de fécondité pourquoi qu'on comprend tous. En fait, c'est une mécanique simple.
Voilà,
il faut savoir effectivement pourquoi. Je m'en rappelle que dans les années 2000, en fait, on avait un taux de fécondité bien plus fort que les autres pays européens. Et on était assez fiers de ça. On prenait notre modèle bien différent de l'Allemagne et de l'Italie avec, en fait, on opposait en fait notre modèle en disant, ben nous, en fait, on a un système de garde, on a un système, une mécanique où les enfants peuvent rentrer à l'école à 3 ans. En Allemagne, c'est à 6 ans, ça bloque tout ça. Et en dépit des mesures qui, a priori, existent encore. Enfin, je veux dire, on est parvenu là-dessus.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, j'ai quand même noté qu'à partir du moment où François Hollande... Alors, je sais pas si c'est... Non, mais c'est véritablement à partir de ce moment-là...
C'est Hollande et Marisol Touraine, les coupables.
Voilà, qui ont baissé les cotisations familiales et abaissé le quotient familial. Eh bien, ça a déclenché comme un manque de protection, comme si, en fait, il fallait... Et puis, il y a d'autres réponses aussi, véritablement, la problématique...
Difficulté à se loger aussi, peut-être.
Caractère anxiogène qui est global et qui est général.
Oui, les jeunes, en fait. Auparavant, vous,
sur
les jeunes...
Le réchauffement climatique, les guerres, les crises internationales, la géopolitique, tout ça ne fait pas confiance.
Allez, c'est terminé. Moins de 3 minutes, c'est l'heure de l'extra time, comme tous les soirs. Vos avis du soir, coup de gueule ou coup de cœur en 30 secondes, c'est la règle, évidemment. Stéphanie, puisque vous étiez partie, allez, je vous...
C'est toujours sur la dépense publique. On voit qu'en fait, il y a eu un manque à gagner à travers la suppression des taxes foncières globales, de 40 milliards avec la taxe d'habitation et d'à peu près 23 milliards sur les taxes foncières pour les entreprises. On voit que d'un côté, ça n'a pas du tout fonctionné parce que finalement, depuis 2017, il n'y a pas véritablement un boom de la consommation. On se rappelle que Macron voulait donner du pouvoir d'achat aux ménages. Maintenant, là, pour le coup, ça c'est vrai, ils ont plutôt préféré épargner. Et par contre, si on regarde, sans parti pris, si on regarde ce qui se passe au niveau des entreprises, on voit que l'investissement, lui, est reparti, l'investissement des entreprises depuis 2017.
Voilà pour le coup de gueule
ça
ce soir de Stéphanie.
Ça, Jean-Marc.
Jean-Marc Sylvestre.
Ah, moi, je donne un coup de cœur à François Hollande.
Heureusement qu'on est assis.
Parce que quand même, il peut être de gauche, il n'a pas fait un quinquennat formidable, mais il vient de prouver qu'il était libéral et pédagogue. Il a remis en place les membres de la commission d'enquête du Sénat sur Total. Il est venu porter secours à M. Pouyanné pour dire qu'après tout, il n'avait pas tort de se diriger vers New York pour trouver de l'argent. À partir du moment où vous avez une logique d'entreprise, Total a une logique d'entreprise qui lui est propre. Total n'a pas besoin de l'État français. Total a besoin de ses actionnaires, et ses actionnaires sont à 45% des actionnaires américains.
Et tu trouves ça bien pour la France que Total aille se coter en bourse sur la bourse américaine?
Je ne pourrais pas opposer à ça à une direction de l'État. Ou alors on nationalise.
Allez.
On renationalise.
Henri Sterdignac, Henri Sterdignac.
De l'ours. 30 secondes.
C'était l'âge de François Hollande et le pavé de l'ours.
Allez, en 30 secondes.
Je suis bien d'accord.
Moi, je vais vous parler des crèches. Je vais faire d'abord un coup de cœur à l'Assemblée nationale, un coup de chapeau à l'Assemblée nationale qui a mis le dossier sur la table, le problème des crèches, les enfants, on n'a pas assez, on ne dépense pas assez actuellement pour les crèches. On a beaucoup de mal à recruter parce qu'on a des salaires trop faibles. On n'a qu'un adulte pour 6 enfants, pour 6 bébés, alors qu'il en faudrait un pour 4. Et puis, on a en plus des crèches à but lucratif qui se développent et où les enfants ne sont pas forcément traités de manière satisfaisante. Donc, il faudrait, je suis désolé, Jean-Marc, peut-être dépenser un peu plus pour les crèches.
Et pour relancer notamment la natalité en France.
C'est fini pour ce soir. Merci beaucoup. Stéphanie Villers, Jean-Marc Sylvestre et Henri Sterdignac, merci. À très vite avec plaisir pour de nouvelles aventures. 19h55, c'est fini.
Alors c'est terminé, mais on n'avait pas envie d'arrêter. Ceci dit, mais on n'a pas le choix, le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com, sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux, en podcast. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir.
On vient demain soir, bien sûr, 18h pour nouvelles aventures. Frédéric Simotel, Tech & Co, dans un instant. Très bonne soirée.
À demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.